Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les podcasts Outsider, donc de retour, hein, toujours après une longue traversée du désert. Et c'est encore moi pour vous faire à nouveau du podcast Game Design, hein, podcast Game Design toujours sur le jeu de rôle et toujours en solo, hein, comme les deux précédents. Alors, sachant que là, je viens avec du dossier, j'ai du gros dos, j'ai du sujet bien lourd, bien charnu. On va parler d'intensité et de profondeur en jeu de rôle. Donc les précédents podcasts, ils avaient duré 1 heure, ça allait, c'était pépère. Là, prévoyez l'aspirine, les Smarties, enfin faites quelque chose, vous bloquez, vous prenez des RTT, vous partez dans le métro avec votre petit vélo, ce que vous voulez, vous prenez de la drogue, vous vous détendez et vous bloquez 2 heures, voilà, pour écouter ça, quoi. Tranquille. Donc, d'abord, je vais commencer par vous balancer un peu de biblio. Donc, en fait, vous allez écouter quelques podcasts là. Donc, vous en avez pour soit une bonne vingtaine d'heures, quoi, hein, tranquille. Et puis après, vous revenez. Donc, vous êtes de retour, hein, il s'est pas 20 heures plus tard. Donc, vous venez d'écouter le podcast Outsider sur la simplicité. Et vous avez également écouté les 5 podcasts des voix d'Altaride sur les atomes du jeu de rôle. Et puis également, tant qu'à faire, vous avez sans doute également aussi écouté le podcast Ludologie, hein, toujours sur les atomes du jeu. Voilà, donc revenons à nos moutons, hein, l'intensité et la profondeur. Alors avant de définir ce que c'est, je vais juste préciser qu'il y a des fois, je pense à mon avis dans le podcast, ça va donner l'impression que je parle de trucs de valeur absolue, quoi. Qu'un jeu est absolument profond ou pas du tout profond, ou qu'un jeu est absolument intense ou pas du tout intense, c'est un raccourci de langage. Les choses ne sont jamais binaires, il y a un continuum. En plus, moi j'estime que le jeu de rôle, c'est l'art des relatifs. Comme c'est quand même un loisir, un média, un mode de communication où on produit masse de contenu émergent, c'est un peu, enfin, pour moi, ça me paraît vain de définir des choses absolues. Peut-être qu'on pourrait le faire avec du jeu de plateau, et encore, je suis sûr que dans le jeu de plateau, il y a aussi du gameplay émergent. En tout cas, pour le jeu de rôle, ça me paraît effectivement à côté de la plaque. De définir des absolus, donc ce sera jamais 0 ou 1, les valeurs, ce sera toujours entre les deux, quoi. Alors, peut-être avant de vraiment définir c'est quoi, alors je définirai d'abord la profondeur, ensuite l'intensité. Avant de définir ça, je vais parler de deux types de mécaniques de jeu. C'est les mécaniques molles et les mécaniques dures. Alors, bon. J'ai presque envie de dire que par rapport aux jeux de société ou aux jeux vidéo, toutes les mécaniques de jeux de rôle sont des mécaniques molles, c'est-à-dire soumises à interprétation. Ouais, voilà, c'est ça. C'est comme on dit, si on veut, les sciences sociales, que ce sont des sciences molles, parce qu'elles sont quand même soumises à l'interprétation. On ne peut pas toujours faire de calculs statistiques non plus sur les enquêtes. C'est des choses qui a quand même une part de ressenti. Et les mécaniques dures, c'est des choses qui sont plus mathématiques, opposables, qui a pas besoin d'un être humain pour interpréter ou arbitrer, qui forme une sorte de code pénal qu'on pourrait pas réfuter. Alors bon, le code pénal, en l'occurrence, c'est quelque chose de hautement interprétable. Alors on pourrait, est-ce que le code pénal ne serait pas quelque chose d'assez mou en réalité? Des exemples, hein, de mécaniques molles en jeu de rôle. Molle, on va dire quand je dis molle, c'est comme j'ai dit, hein, toutes les mécaniques de jeu de rôle sont molles si on les compare aux jeux de société ou si on les compare aux jeux vidéo. C'est molle pour du jeu de rôle, quoi. Donc c'est très très mou, quoi. Hein, c'est vraiment mou. Vous voyez les montres molles, celles d'Ordre d'Ali, bah, c'est un peu ça, quoi. Il y a le jeu free, en freeform structuré, hein, c'est-à-dire ce qu'on peut aussi appeler les systèmes légers. Hein, donc c'est des systèmes qui lassent, où il y a peu de chiffres, peu de hasard, et qui laissent la part belle à la narration. Enfin, plus exactement, ça ne veut pas dire des systèmes où on fait que raconter et on s'en fout des mécaniques. Hein. C'est juste que la narration elle va comment je vais prendre un exemple. C'est les traits. Bon, l'exemple de base du freeform, c'est tu peux nommer ta compétence comme tu veux. Au lieu de force à 5, si tu veux, tu peux mettre main de Hulk. Tu peux mettre de coup de taureau. Enfin, ce que tu veux, quoi. Hein. Mais en fait, le simple fait de changer le nom de la compétence va faire que finalement, c'est plus tout à fait ce que c'était au départ. C'est plus aussi opposable que la force. Parce que main de Hulk, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, je suis juste fort pour frapper, quoi. Mais est-ce que je suis fort pour faire d'autres actions? Donc, ça va être un petit peu discutable. Ensuite, on a les jeux à traits. Les jeux à traits libres. Bon, bah, Inforenza, par exemple, c'est un jeu qui est très très mou, puisque la feuille de personnage, c'est une série de phrases qui racontent l'histoire du perso. Clairement, la joueuse, elle est un peu, vraiment, elle est quand même assez libre de mettre ce qu'elle veut dans ses phrases, quoi. Elle a juste imposé que la première, c'est son objectif, et puis les suivantes, ce sont soit des puissances, enfin des conséquences positives de conflits, ou des conséquences négatives de conflits, ou éventuellement des choses qu'elle aurait pu gagner lors de phases d'introspection, quoi. Mais ouais, c'est quand même freestyle, quoi. Hein. Et puis, bah, le summum des jeux freeform, c'est des jeux où il n'y a pas de chiffres. Ben voilà, Inforenza, il n'y a aucun chiffre, aucune feuille de perso. Il y a encore des règles, mais elles sont purement narratives, quoi. Elles sont invisibles quand on écoute la partie. On n'entend que l'aventure, on n'entend pas la mécanique. Bon, encore que quelqu'un qui connaîtrait le jeu entendrait la mécanique parce qu'il dit ah oui, ils sont en train de raconter ça, mais en fait ça veut dire qu'ils sont en train de mobiliser telle règle. Par exemple, dans Inforenza, il y a la règle du prix à payer. Genre, le MJ dit ah oui, tu veux séduire le prince, mais tu pourras le faire que si tu tues sa sœur. Parce que c'est la seule chose qui pourrait le séduire. Bon, bah là, en fait, je viens de demander un prix à payer, c'est-à-dire que je viens de faire intervenir une mécanique, sauf que c'est une mécanique narrative. On a aussi l'OSR, c'est-à-dire les jeux inspirés de Donjons et Dragons Boîte Rouge. On peut presque qualifier, en fait, Donjons et Dragons Boîte Rouge de jeux OSR dans le sens où, globalement, de jeux freeform, dans le sens où, globalement, les chiffres, ça va couvrir le combat. Et sinon, bah, il n'y a pas de compétences, hein. Donc, par exemple, si ton personnage, tu veux que ton personnage construise une maison, bah, sachant qu'on sait juste les règles chiffrées, sont juste là pour dire comment il se bat, bah, là, en l'occurrence, bah, c'est à toi d'expliquer à la MJ que tu vas chercher des rondins, machin, que tu passes une semaine chez le charpentier pour apprendre à charpenter. Que tu vas chasser des sangliers pour ensuite le fruit de ta chasse revendre pour avoir des brousoufles pour acheter des clous et du matos et ainsi de suite, quoi. Tu fais pas un jet de charpentier que t'as 80% en charpentier, quoi. Ça se négocie, quoi, tout simplement, quoi. Et pour le coup, ce qui procède des mécaniques molles dans la plupart des jeux, c'est ce qu'on appelle les conseils de jeu, quoi. Du genre, si vous voulez faire du jeu d'ambiance, bah vous éteignez la lumière, vous allumez des bougies. Comment vous voulez effrayer vos joueurs, bah vous allez derrière eux, vous criez. Par rapport à ce que vous racontez, je sais pas si on est dans un jeu kawaii, vous pouvez dire, type de conseil, bah décrivez des PNJ qui sont tout le temps en train de sourire. Ou des conseils qu'on a, c'est soyez à l'écoute de vos joueuses, quoi. Donc ça, c'est un peu extra-diégétique, et ainsi de suite. Là, c'est des choses qu'on ne peut pas chiffrer, mécaniser vraiment, quoi. On peut essayer de les systématiser, comme fait Apocalypse World, avec les moves de MJ, quoi. Genre, il y a un move, c'est régurgiter des descriptions de fin du monde, quoi. Effectivement, c'est très freeform, le fait de faire des descriptions de fin du monde. Mais par contre, le système mécanise, parce que tu as une liste de moves à faire, puis tu es quand même censé ben, passer d'un move à l'autre régulièrement, quoi. Donc tu sais que assez régulièrement, tu dois faire. Si ça fait deux séances que tu n'as pas coché Régurgite de description de fin du monde, tu dis qu'il est peut-être temps que tu t'y mettes, quoi. Alors, on va prendre des mécaniques un peu dures. Et les mécaniques dures, je vais prendre l'exemple de Breaking the Ice, c'est un peu ma marotte, hein, d'Emily Kerboss. Voilà, sans elle, le game design entier en jeu de rôle ben, n'existerait pas. On serait encore rendu à jouer au Monopoly avec des classes de personnages. Donc, béni soit-elle. Donc, dans Breaking the Ice, on joue les trois premiers rendez-vous d'une rencontre amoureuse. Et en fait, le système va mécaniser la relation amoureuse. Et notamment, quelque part, les dés les résultats des dés vont dire si oui ou non, au terme des trois rendez-vous, eh bien, les deux personnages restent amoureux, s'ils mettent fin à leur relation ou pas. Mais c'est pas le premier jeu hein, à faire des mécaniques dures sur les relations amoureuses, hein. Je veux dire, à la plupart des jeux où il y a la compétence charme ou le sort hein, dans Donjons et Dragons, tac, bon bah tu fais un jet de charme, hop, la personne en face de toi est séduite, et puis peut-être en faire un pour voir si c'est réciproque, et puis ainsi de suite, c'est juste à la rigueur, du coup il y a des mécaniques dures simples, le jet de charme, et des mécaniques dures complexes, parce que du coup l'évolution de relations amoureuses dans Breaking the Ice, il y a quand même, voilà quoi, il y a un peu plus de règles pour les gérer quoi. Autre mécanique dure, je reprends d'un nouveau Donjons et Dragons boîte rouge, ben c'est les règles de combat quoi, hein, où en fait là on va bien chiffrer quels sont tes points de vie, les dommages que tu peux faire, nombre d'attaques par round et tout. Alors bon, ça reste encore un peu géré à la way and again sur certains aspects hein, dans Donjons et Dragons boîte rouge. Dans DD 3.5 et puis DD 4. Eh bien, on arrive à des usines procédurales absolument, absolument démentes pour gérer le combat voilà, de la façon la plus précise possible. Alors, vous allez dire, mais il était con, il est complètement hors sujet. Enfin, ce mec dérape complètement, coupé du micro, il est complètement hors sujet. Alors, je pense que vous allez comprendre plus tard pourquoi j'ai parlé de ces mécaniques molles et mécaniques dures, quoi. Bon, bah maintenant, il est temps que je vous définisse la profondeur en jeu de rôle. Qu'est-ce que c'est un jeu de rôle profond ou une partie de jeu de rôle profonde ou une campagne de jeu de rôle profonde? Parce que ça peut s'analyser sur ces trois niveaux, hein, c'est un peu différent. Eh bien, c'est un jeu où il y a plusieurs types de gameplay qui vont se succéder, à la fois dans l'espace et dans le temps. Je vais définir tout à l'heure ce que ça veut dire. On pourrait aussi dire qu'un jeu profond, c'est un jeu qui a une grande durée de vie. Ça veut dire que si ça fait toujours 80 séances et 100 séances que tu joues au jeu sans classer, on a sans doute affaire à un jeu profond. Il y a une notion en fait de rejouabilité, de replay value. Comment entre guillemets, enfin, je vais faire le bon et le mauvais chasseur, quoi. Hein, c'est quelque chose que, par exemple, on peut retrouver sa dénomination, comment le jeu Harriet, quoi. C'est-à-dire que c'est un jeu où tu peux faire absolument tout ce que tu veux, tu peux faire n'importe quoi et c'est exactement ce que tu fais, dans le sens où la proposition de jeu est tellement vaste que du coup, et puis tellement en fait, en plus toi tu vas l'adapter à tes besoins, que bah, tu vas faire tout et n'importe quoi avec le jeu. À la rigueur, je vais prendre une proposition particulièrement badass. Il semble qu'il y a un ange gardien qui va utiliser. Le jeu de rôle Torg, qui est un jeu de rôle de multivers, pour en fait dire que ouais bah tous les jeux que j'ai dans ma bibliothèque c'est des univers pour Torg. Et en fait mes personnages, les personnages de mes joueuses dans toutes mes campagnes, de tous les jeux de rôle que je fais, en réalité c'est un seul unique personnage, tu vois, une entité qui va s'incarner dans des corps différents, et qui va slider d'un univers sur l'autre et tout. Et donc du coup, on est sur une vastitude complètement démente. Hein. C'est-à-dire, ouais, bah en fait, vos persos à Chine, c'est les mêmes persos que vos persos à Shadowrun, quoi. C'est juste une incarnation différente et tout. Et bon, bah, pour le coup, je pense que Ange Gardien, bah, il se vautre dans les rillettes comme un gros cochon, pour le meilleur et pour le pire. On va y revenir aussi, mais je pense que dans la notion de profondeur, on a une notion de creux et de vagues. C'est-à-dire qu'il y a y a des moments de grande intensité, des moments de faible intensité. Intensité notamment, justement, sur la durée des passages. Je vais prendre l'exemple du jeu de rôle Mantra de Batronomant, parce qu'en fait, dans Mantra de Batronomant, donc c'est un jeu de multivers, quand tu passes d'un univers à l'autre, ouais, j'adore les multivers, bah, maintenant je veux dire, il m'en faut plus, quoi, juste un univers, c'est vraiment pour les piwis, donc moi il m'en faut une infinité, quoi. En fait, si on veut, chaque univers de Mantra, il correspond en fait à une aventure de la campagne. Donc, grosso modo, tu changes d'aventure, tu changes d'univers, quoi. Et si, enfin, pour faire vraiment plus simple encore, si ta campagne elle fait 15 séances, ben, en fait, t'as fait 15 univers, quoi. Et il y a des aventures slash univers qui sont écrits pour durer 4 heures. Il y a des aventures qui sont écrites pour durer 1 heure, quoi. Donc en fait, l'univers il va être plus simple, tout ça, ce qu'il y a à faire c'est beaucoup plus simple, voilà. Et puis le truc, il y a des univers qu'on appelle les réminiscences, où en fait les personnages vont se trouver dedans et ils ont un chrono de 6 minutes. Ils ont un chrono de 6 minutes pour faire ce qu'ils ont à faire dedans, quoi. Bon, en réalité, c'est moins séquencé que ce que je dis, hein. C'est-à-dire que ça, par exemple, les réminiscences, tu vas les faire au milieu d'une grosse aventure, quoi. Mais c'est pour vous, je trouve que c'est une bonne illustration de cette profondeur, cette notion de creux et de vague. C'est-à-dire que tu vas avoir une séance, tu vas avoir une séance bien calme, bien introspective, et ensuite tu vas avoir une séance ultra effrénée. Il y a une séance, tu vas jouer un combat qui va faire 4 heures, puis la séance suivante, tu vas faire de la diplo pendant 4 heures, et ainsi de suite, quoi. Ah, je crois que Victor commence à avoir soif, donc on va se faire un petit bib. Hop, on s'en envoie un derrière la cravate, à votre santé. Donc, je parlais en fait de plusieurs gameplays en même temps dans l'espace. Ça veut dire quoi? Ça veut dire plusieurs gameplays dans l'espace. Ça veut juste dire qu'à un temps T, le jeu te propose plusieurs gameplays et tu fais tes courses dedans. Le cas qui me vient à l'esprit, c'est le jeu de rôle Fate, qui est un jeu générique pour faire du pulp. Et en fait, le jeu il est modulaire, c'est-à-dire que c'est à toi d'assembler les mécaniques de la façon que tu veux pour avoir le gameplay que tu veux, quoi. Et donc, ça veut aussi dire que si tu fais une campagne Fate, eh ben pourquoi pas, tu peux changer les réglages d'une séance sur l'autre, quoi. Et du coup, bon, alors, là j'y reviens puisque du coup j'arrive au gameplay étalé dans le temps. Autre éventail de choix, hein, qui se propose à toi, eh ben c'est les jeux de rôle avec des scénarios, quoi. Parce que finalement, eh ben si t'as un jeu de rôle du commerce pour lequel il y a 50 scénarios, eh ben tu pars déjà de base pour ta séance de ce soir avec 50 propositions différentes. On a les variantes. L'exemple que j'ai, c'est Sombre, hein, le jeu de rôle d'horreur de Johann Scipion, qui a une variante qui s'appelle Sombre Zéro, qui est faite pour jouer du jeu plus minimaliste. Il y a une variante qui s'appelle Sombre Max, où tu joues un peu plus aventure qu'horreur, quoi. Alors là, c'est marrant, on va retrouver à nouveau cette notion de creux et de vague, parce que tu peux l'étaler dans le temps, en fait. C'est-à-dire que tu peux faire une campagne de sombre. Alors, campagne de sombre, c'est les campagnes avec des persos qui changent à chaque fois, hein, parce qu'il y a de la mortalité. Mais tu peux avoir du coup une campagne en monde persistant de sombre, et d'une séance sur l'autre, tu vas changer de variante. D'ailleurs, je crois que je le mettrai dans la biblio, parce que justement, Johan, il l'a fait. Il a fait une mini campagne où il a fait ces trois variantes en même temps. On a les conseils de jeu aussi en fait qui vont donner un éventail de joie. C'est que bah écoute, ouais, ce jeu, tu peux le faire avec cette ambiance-là, si t'appliques les conseils machin, machin, machin. Mais si tu veux plutôt une ambiance comme ci, comme ça, bah écoute, va plutôt taper dans les conseils là et tout. Souvent les conseils, c'est rarement Quand tu lis les règles d'un jeu, qui sont des mécaniques dures, t'es tenté de les appliquer toutes, hein, sauf s'il y en a une masse critique. Hein. Ça participe aussi de plusieurs gameplays dans le tenter, quoi. C'est-à-dire que si t'as un jeu qui a une page de règles, il y a de fortes chances que dès ta première partie, tu utilises toutes les règles. Si t'as un jeu qui a 50 pages de règles, qui prévoit plein de cas de figure, tout ça, machin. Même si c'est pas modulaire, hein, c'est-à-dire que tout, qu'il y a aucune règle qui se contredit, il n'y a aucun choix à faire. Mais bon, ça veut quand même dire que ça couvre tellement de cas de figure que tu vas pas utiliser toutes les règles à chaque fois, quoi. Hein. Donc, quelque part, d'une certaine façon, tu es déjà en train de créer ton propre jeu, quoi, en sélectionnant les règles que tu vas utiliser. Soit tu les sélectionnes par les situations. Bon bah voilà, je fais un scénario de space opéra. Comment on va juste faire un voyage dans l'espace, donc j'utilisais la règle de voyage dans l'espace. Alors que si j'avais fait un scénario toujours space opéra avec une exploration de planète, bon bah j'aurais utilisé d'autres règles quoi. Autre facteur de choix, c'est les univers officiels. Bon bah je prends l'exemple de Donjons et Dragons, surtout à la glorieuse époque de la 3.5, il y avait une foutue palanquée d'univers quoi, tu pouvais jouer dans les Royaumes Oubliés, les Terres Balafrées, Eberron, Dark Suns, Midnight, Planescape, alors je crois que Planescape c'est juste AD&D. Enfin bon, entre guillemets, Sky is the limit quoi, hein, et donc ça participe de la profondeur du jeu Donjons et Dragons quoi. Alors, si tu considères que tous les univers de Donjons et Dragons sont connectés dans un même multivers, ce qui est d'ailleurs complètement assumé hein, par le jeu, alors là, tu te retrouves avec une profondeur abyssale, quoi. Hein. Pour ça, bah, du coup, faut jouer à Planescape justement l'univers, puisque c'est un Planescape, c'est grosso modo la plaque tournante entre tous les plans de tous les univers de Donjons et Dragons possibles quoi. Donc du coup tu peux aller vers les Royaumes Oubliés, vers Eberron, vers tout ce que tu veux, les Terres Balafrées depuis la ville de Sigil quoi. Donc puisqu'on dit que la profondeur c'est une affaire de choix multiples, on a aussi les univers qui possèdent plusieurs jeux de rôle. Bon bah voilà, je vais vendre ma cam. Hein, Milvaux, il y a grosso modo une quinzaine de jeux de rôle pour jouer dans Milvaux et chacun propose une ambiance différente quoi. Alors c'est pareil, tu peux te faire une campagne où tu changes de jeu de rôle à chaque fois quoi. Alors justement, je suis déjà en train de baver sur le plusieurs gameplay dans le temps. Donc du coup, je passe à ça. Plusieurs gameplay dans le temps, bah, toujours cette notion de creux et de vague. Et aussi cette notion bah, de succession de gameplay tout simplement. Hein. Alors par exemple, on a au cours de ta campagne, tu peux passer entre des moments de grosse combativité où les personnages ils sont en lutte, ils défendent leur objectif, et alterner avec des moments d'introspection, de repos, de discussion. Les persos ils réfléchissent entre guillemets sur les enjeux moraux, philosophiques qui sont présentés à eux, ils commencent à élaborer des stratégies et tout. Les autres variations que tu peux avoir, c'est passer de moments très bac à sable sandbox, et puis en fait. Oui, bah du coup, puisqu'on est en bac à sable, on choisit ce qu'on veut. Bah tiens, on va aller explorer cette montagne. Ok, bah du coup, le MJ il prépare ce qu'il y a dans la montagne, sauf que là, il fait un scénario linéaire quoi pour l'exploration de la montagne. Du coup, on passe. Il y a des moments du coup qui sont bac à sable, et puis des moments qui sont toboggan quoi. Là aussi, on a de la profondeur, c'est quand. On fait une campagne d'un jeu qu'on est en train de créer ou de playtester. Parce qu'en fait, si tu veux, le jeu, d'une partie sur l'autre, il va se transformer en fait par les modifications des playtesters, quoi. Du coup, d'une partie sur l'autre, t'auras pas le même gameplay avec des fois des moments. Bon, écoutez les gars, Bah vos personnages, la feuille de personnage, on efface tout, on recommence, on refait une création de personnage avec les nouvelles règles. C'est toujours vos mêmes persos, ils ont évolué, mais c'est plus les mêmes règles, quoi. Dans le. Ouais, on est dans un jeu en création permanente, quoi. Donc c'est valable pour ceux qui playtestent pour éditer, mais bon, il y a tous les auteurs de jeux de rôle maison, hein, que c'est juste pour leur table, et ben c'est la même démarche en fait, hein. On a la notion d'apprentissage bah, qui est vraiment fondamentale dans le jeu en profondeur, c'est que il y a des nouvelles types de situations, des nouvelles types de règles, des nouveaux challenges de gameplay, des nouveaux voilà, des nouvelles histoires, nouvelles aventures tout le temps. Donc on est tout le temps en train d'apprendre. Et l'apprentissage, ben, ça fait plaisir, ça fait partie du plaisir de jeu. Voilà, que Jérôme Larrey dit souvent, une fois que tu as arrêté d'apprendre, eh ben, tu arrêtes de jouer au jeu. Je renvoie à nouveau au podcast Simplicité. Bon, vous allez me dire, t'as un gros boulet hein, dans le podcast Simplicité, t'expliques déjà tout ça, tu nous refais le film. Ben écoutez, c'est possible. Après tout, je refais le film. Bon, le podcast, il a 2 ans. Je pense que c'est bien des fois de repasser sur ses propres traces. Je pense quand même à essayer d'apporter des vraies nouveautés. Facteur de profondeur aussi, on a tout simplement les niveaux. Parce qu'un personnage à Donjon Dragon, un personnage niveau 0 et un personnage niveau 20, ils manipulent pas du tout les mêmes règles. Pas du tout les mêmes enjeux et tout. Il y a tout ce qui s'est passé, toute l'historicité aussi comment, de la campagne qui va jouer. Hein, c'est-à-dire que bah, quand tu joues niveau 20, c'est-à-dire que ça fait tous les scénarios pour passer au niveau 20, tu es en train de gérer ton fief, il s'est passé tellement de trucs avant. Il y a tellement de nouvelles choses à prendre en compte, c'est-à-dire que l'univers de départ, il a été ultra modifié par les actions des joueuses, quoi. Et donc, l'univers est en perpétuelle modification du fait des actions des joueuses, quoi. Et donc, du coup, ça veut dire gameplay différent à chaque fois. Ça fait un peu, là, du coup, dans cette idée de. Ouais, il y a aussi des notions de boucle de gameplay, quoi. Hein. Du coup, il y a des cycles qui se font, quoi, des étapes qui s'auto-alimentent, qui s'auto-génèrent, en fait. Je réussis des aventures, du coup, je passe un niveau, du coup, on me propose de nouvelles aventures qui sont adaptées à mon nouveau niveau, et ainsi de suite. Voilà, c'est une boucle de gameplay, bon, qui peut paraître éculée, mais qui fonctionne, quoi. Je parlais d'historicité de la campagne. Ce qui fait la profondeur, ça peut être effectivement les arcs narratifs. Un arc narratif, faut voir ça comme un arceau, hein, effectivement, avec le début d'une histoire, d'une intrigue perso, comment une montée en puissance, et puis ensuite un truc qui va se déliter. Par exemple, un personnage qui recherche sa fille qui a disparu. Au début, il va faire un peu mener l'enquête, et puis à un moment, il va commencer à avoir de plus en plus d'indices, il va être confronté au ravisseur de sa fille, et puis à la fin, bah, il va la retrouver peut-être, et puis on va jouer encore un peu la relation avec sa fille, peut-être qu'il va punir un ou deux gars qui a échappé à son juste courroux, puis après, on va passer à autre chose, quoi. Et évidemment, les arcs narratifs, quand c'est bien fait, entre guillemets, enfin, quand c'est bien fait, non, j'exagère. Il y a deux façons de gérer la succession des arcs narratifs. Soit tu fais un après l'autre. Bon, on fait d'abord l'arc narratif 1, ensuite le 2, ensuite le 3, ensuite le 4. L'avantage de cette méthode, c'est que les joueuses, elles sont pas trop larguées, quoi. Du coup, voilà, on prend le gâteau part après part, c'est quand même plus digeste. Ou sinon, il y a la notion d'arc narratif qui se chevauche, quoi. Tu peux commencer avec bah, quelque part. Dès que tu fais du jeu centré sur les personnages, du jeu où les personnages ont un gros background, ils ont des objectifs, il y a quasiment déjà de base un arc narratif au moins par joueuse, plus le MJ qui a préparé son sandbox, machin, il y a ses propres arcs narratifs à lui à gérer, quoi. Donc t'as plein de narratifs qui démarrent en même temps, et puis il y en a qui vont finir à la deuxième séance, il y en a qui vont finir à la sixième, il y en a un qui va commencer à la troisième et qui va se finir à la dixième, ainsi de suite, donc ça se chevauche, quoi. T'as toujours plein de lièvres à la fois, quoi. Donc évidemment, le défaut de cette démarche, c'est aussi de perdre les joueuses, d'avoir une surcharge cognitive Mais on a ce principe-là, notamment dans le jeu de rôle Marche-Branche, où tu as des missions. Marche-Branche, c'est un jeu de ma pomme, hein, parce que bah, je suis là pour vendre mon beefsteak, hein, évidemment, qu'est-ce que vous croyez. Donc dans Marche-Branche, les personnages se voient toujours confier trois missions à la fois. Et dès qu'ils résolvent une mission, bah, il y a un nouvel emmerdeur qui vient leur proposer une nouvelle mission. Tu as toujours trois missions. Enfin, tu peux un peu bouger ça, mais grosso modo, c'est trois missions à la fois, quoi. Et l'idée, quelque part, c'est que ça fait un peu surcharge cognitive, quoi, parce que tu sais que tu as plein de trucs à gérer en même temps, faut que tu fasses des choix, tout ça, machin. Et les choix que tu laisses de côté, eh ben, ça va s'agrafer, se compliquer, se modifier au fur et à mesure, quoi. Parce que bah, pendant que tu t'occupes pas du problème de Madame Michu qui a perdu son chat, eh ben, peut-être que son chat, il va lui arriver des trucs, quoi. Hein. Ou Madame Michu va lui arriver des trucs aussi, quoi. Donc, il y a un effet de surcharge cognitive en fait, qui est réel. On peut ressentir une certaine fatigue en fait. Ça peut être exténuant en fait, le jeu profond. Pour le coup, ça peut être intense en fait. Et pour autant, voilà, la surcharge cognitive, ça. C'est possible que ça fasse partie de ce constitutif de la profondeur, ou du moins des jeux qui soient à la fois profonds et intenses. Donc, autre changement de gameplay en fait dans le temps, c'est quand on remet en fait en cause le contrat social d'une voix sur l'autre ou en cours de partie. Du coup, il y a des dynamiques de social de joueuses qui vont se transformer. Il y a des osmoses de groupe qui vont évoluer, quoi. On a aussi ce qu'on appelle le gameplay émergent, c'est-à-dire quoi? Bon, en jeu de rôle, je dirais qu'il y a l'émergence. L'émergence, c'est la partie imprévue de l'aventure qui est incitée par le gameplay ou auquel le gameplay laisse une place. Et le gameplay émergent, c'est en fait quand les joueuses, elles prennent les règles, elles prennent le jeu et elles s'en servent d'une façon qui est imprévue. Bah, à la rigueur, l'exemple, je trouve que l'exemple d'Ange Gardien, qui utilise le jeu de rôle Torg pour faire une connexion avec toute le reste de sa bibliothèque de jeux de rôle, là, il produit un gameplay émergent de ouf, quoi. Mais tout comme le gameplay émergent, quelque part, c'était aussi les joueuses de Cyberpunk qui jouaient Ken et Barbie avec des gros guns, alors que Mike Pondsfield, l'auteur de Cyberpunk, pensait avoir designé le jeu pour faire autre chose que ça, pour faire des révoltés, et ainsi de suite, quoi. Et ça, c'est une forme de gameplay émergent. Alors, elle n'est peut-être pas voulue par l'auteur, mais bon, de toute façon, moi, je suis dans le camp de Roland Barthes, hein, pour la mort de l'auteur. Une fois que la joueuse, elle a le bouquin entre ses mains, bah, hey, elle est libre. Hein. Qu'est-ce que l'auteur, il peut faire à part écrire des suppléments qui l'insultent? Je vois pas trop ce qu'il peut faire, quoi. Autre chose qui va provoquer de la profondeur, c'est tout simplement l'exploration de zone. Bon, bah voilà, bah, comme par exemple dans le jeu de rôle Altré. Hop, on te file une carte avec un brouillard de guerre. Bah vas-y camarade, explore-moi un peu tout ça. Bah forcément, quand tu passes de zone en zone, t'as plein de nouveautés quoi. T'as des nouveaux défis à chaque fois. Ça va créer de la profondeur. Et justement cette notion qu'il y a dans la profondeur d'alterner les défis. Et notamment, on va avoir des défis tactiques, des défis moraux, des défis esthétiques, pourquoi pas des défis sociaux qui vont se succéder quoi. L'autre facteur de profondeur, c'est pour le coup la modification de la géométrie du groupe, quoi. Par exemple, si tu fais une campagne en table ouverte, c'est-à-dire que, mettons, bah, moi quand je l'ai fait, par exemple, j'ai fait Odyssée aux Utopiales, quoi. Eh bien, moi, grosso modo, j'ai joué pendant 15 heures et les joueuses, elles allaient et venaient comme elles voulaient. Il y en a qui restaient 10 minutes, il y en a qui restaient 3 heures, il y en a qui revenaient le lendemain, ainsi de suite. Et donc, j'avais un groupe de joueuses qui était tout le temps changeant, quoi. Si tu prenais une photo de la table une demi-heure après demi-heure, quoi, il n'y avait jamais exactement les mêmes têtes. Donc, ça, forcément, ça modifie. Alors, ouais, concrètement, est-ce que ça modifie le gameplay? Ça modifie effectivement l'aventure puisqu'on n'a pas les mêmes joueuses, quoi. Alors vous allez me dire, bah par contre le gameplay ça reste la même chose. Et là je me pose la question, j'ai pas la réponse, hein, je vous laisse y réfléchir. Eux, je vous donne des devoirs, moi je suis un ouf. Je suis comme ça, c'est mon côté maître d'école. Est-ce que en fait le gameplay en jeu de rôle c'est pas un truc qu'à un moment, du moment où tu touches en tant que joueuse, du moment où tu joues en fait, tu modifies le gameplay tout en jouant, quoi. Voilà, ça c'est un truc qui m'intéresse, une réflexion un peu abyssale que j'ai en ce moment. On peut se dire que le jeu de rôle profond, il l'est grâce à des mécaniques molles. Puisque du coup, les mécaniques molles, elles vont laisser une grande part à l'interprétation, du coup, elles vont produire du gameplay émergent. Je prends l'exemple d'Inforenza. Voilà, qui est un jeu tout mou, quoi. Voilà, si vous achetez le bouquin, vous allez voir, le bouquin, il est tout mou. C'est vraiment très bizarre, quoi. Mais achetez-le quand même, hein. Achetez-le 10 douzaines. Achetez-en pour ta grand-mère, pour ton voisin. Mets-en dans les toilettes, dans la cuisine. Enfin, ceci dit, je touche pas un centime dessus, donc si acheter des bouquins artisanaux, que vous les achèterez à prix libre. Non, bon, revenons, soyons un peu sérieux. Tu veux ton biberon, Victor, ou pas? Soyons un peu sérieux. Ce que je veux dire dans Inforenza, le jeu est très freeform. En fait, grosso modo, la partie dure du jeu va surtout mécaniser une dynamique sociale, on va dire, de confrontation, de personnage contre personnage, quoi. Pour le coup, le reste, c'est très freeform, notamment comme l'utilisation de tes phrases, tu t'en fais un peu ce que tu veux. Tu peux te poser des challenges de gameplay de ouf. Par exemple, je vous invite à aller voir le podcast Tritea Venise Noire, Venise Blanche, ou le podcast encore sur Compostelle, Venise au Nord, quoi, où je fais en fait, on fait des expériences de gameplay, on utilise le jeu comme une pâte à modeler, c'est-à-dire que tout en laissant intacte la partie dure des mécaniques, en jouant sur la mollesse du reste, on produit en fait des gameplays qui sont complètement différents, quoi. Par exemple, dans Venise, Compostelle au nord, on change de décor tout le temps, quoi. Voilà, c'est pas prévu dans le jeu de base, mais en fait c'est très facile à faire. On peut même faire grâce à certaines mécaniques d'Inforenza, on peut agir en fait d'un décor sur l'autre. On peut faire quoi? On peut faire des interactions entre plusieurs réalités, ainsi de suite. Donc ça, c'est un facteur de profondeur. Les mécaniques dures sont aussi un facteur de profondeur, quelque part, en fait, à condition qu'elles soient nombreuses, en fait, puisque j'avais donné l'exemple de, voilà, si on a plein de choix entre des mécaniques, eh ben, il y a plein de choix, plein de possibilités. Et quelque part, le gameplay émergent, il arrive aussi un peu de là, dans le sens, en fait, quand tu as beaucoup de mécaniques, tu peux pas toutes les appliquer par cœur exact, donc c'est-à-dire que tu vas en oublier, c'est-à-dire qu'il y en a que tu vas jouer de travers. Et donc du coup tu peux pas être fidèle à la lettre, tu peux pas suivre les règles à la lettre, et quelque part bah, ça c'est produire du gameplay émergent. Et puis comme tu vas te corriger d'une partie sur l'autre, tu dis ah merde, en fait cette règle là je l'ai oubliée, il faut que je la mette, mais tu vas en oublier une autre, ainsi de suite. Donc on a à nouveau cette évolution de gameplay dans le temps. On a, à travers cette histoire de mécanique molle et de mécanique dure, on a une sorte de combat, voilà, un combat à mort, entre guillemets, entre la prescription, la partie de l'univers qui est prescrite, du jeu qui est, enfin, la partie du jeu qui est prescrite, Par exemple, l'encyclopédie de l'univers, les règles dures, ainsi de suite, et l'émergence, c'est-à-dire que ce qui est laissé à la libre interprétation des joueuses, quoi, qui permet, bon, l'émergence qui permet d'avoir une aventure, quoi. Et en fait, on peut se demander si la différence entre intensité et profondeur, c'est qu'ils placeraient différemment la prescription et l'émergence, quoi. Bon, bah voilà, Donjons et Dragons, on va avoir une prescription sur l'univers de jeu, quoi, mais c'est juste enfin, un univers de jeu tellement vaste que le fait de prescrire, ça va pas du tout provoquer de l'intensité, quoi. Et dans Breaking the Ice, on a une prescription sur la gestion des relations amoureuses qui permet de gérer de façon intense cet aspect-là, quoi. Alors justement, on parle d'univers prescrit et tout, juste comme ça au passage, hein. Spécial dédicace à ceux qui écrivent des univers de jeux de rôle, ceux et celles. On a tendance des fois à penser, ouais, si je dois leur proposer un univers, faut que je propose un univers qui soit profond. Et qui soit, c'est-à-dire qu'ici le profond, il doit être vaste. À la fois dans l'espace, c'est-à-dire que voilà, c'est une planète entière, il y a 8000 pays, nations, tout ça, puis aussi dans le temps, quoi, dans le sens où, ouais, il faut que je présente le temps présent, mais bon, ce serait quand même utile que je présente la timeline des 300 000 dernières années, quoi, parce que sinon, mon univers, il fait un peu carton pâte, quoi. J'ai écrit un article sur Outsider qui s'appelle La taille idéale de l'univers, et ma réponse à ça, c'est un univers, ça peut être une chambre de bonne. Un univers, il peut avoir une seconde de vie, quoi. Vous sentez pas obligé de faire du jeu profond, de faire des univers profonds. C'est une façon de faire, quoi. Vous pouvez avoir des univers de poche, quoi. Par exemple, l'univers de Patient 13, c'est juste un asile psychiatrique, quoi. Il n'y a rien, on ne sait pas ce qu'il y a autour, quoi, et on s'en fout, quoi. Ou justement, à la limite, le fait qu'on ne sache pas fait partie de la tension du jeu. Mais ton univers, ça pourrait être une pièce, hein. Ce qui fait la profondeur en fait d'un univers de jeu, c'est notamment donc dans les intentions de l'auteur, du game designer. Chaque designer, il a des pratiques de jeu spécifiques, qui évidemment ne correspondent pas à une pratique universelle, quoi. De toute façon, vu qu'il n'y a pas une table qui joue comme une autre table, c'est de toute façon impossible. En plus de ça, la pratique de l'auteur est quelque part influée par le fait qu'il est en train d'écrire le jeu. Je vais prendre mon exemple personnel. Comme je suis auteur de jeu, eh ben, je vais faire le tour des conventions, je vais faire des démos et des playtests aussi en ligne sur Hangout. Si j'étais pas en train d'écrire un jeu, si je jouais au jeu des autres, eh ben je pense que j'irais pas en convention, je ferais pas de partie en ligne, je me ferais des parties avec les copains, ce serait toujours les mêmes, et puis on se verrait de façon régulière, tout ça, et en fait on jouerait de la fin. Alors que là, aujourd'hui, je joue pas du tout comme ça. Plutôt que de jouer avec mes 5 copains toujours au même jeu, je joue à plein de jeux différents, parce que je suis toujours en train de tester un jeu différent. Et je joue avec plein de joueuses différentes, joueuses et joueurs, hein. J'ai fait un calcul comme ça. Et je me suis dit que dans l'année, je voyais passer 300. Allez, on va dire 300 joueuses à ma table. Et sur les 300 joueuses, 200 joueuses uniques. Enfin, joueuses-joueurs, hein, bien sûr. Oui, il y a une personne qui m'a demandé, quand j'ai employé le terme joueuse, il m'a demandé, mais tu as que des joueuses à ta table? Eh ben, bon, je suis pas Zach Smith, hein, je suis désolé, je n'ai pas que des joueuses à ma table. Aucune d'ailleurs n'est star du X, enfin du moins pas à ma connaissance. Non, c'est juste pour des soucis de mixité, hein, que je dis joueuse. Voilà, ça change un petit peu. Spécial big up à Coralie David, hein, qui est la première à avoir employé le terme joueuse, on va dire de façon intensive en français, dans sa thèse sur le jeu de rôle. Donc, Quand on a conscientisé qu'en tant qu'auteur, on avait des pratiques spécifiques, moi par exemple, la pratique que en fait, ma table, elle est la géométrie variable, j'ai jamais les, enfin, je change vachement de personnes en face de moi. Et en plus de ça, je fais pas de campagne parce que mon groupe change tout le temps. Donc je fais que les one shot. Alors si je veux tester des jeux en campagne, je fais juste le début de la campagne. Ou alors je joue la campagne en monde persistant, c'est-à-dire que moi j'ai mon bah comme Johan faisait, hein, moi j'ai mon monde qui évolue tout ça, mais c'est les personnages qui changent et les joueuses qui changent quoi. Là, je suis en train de faire une campagne. Je viens de finir une campagne de Marchebranche où j'ai fait comme ça. Vous aurez les comptes rendus qui arriveront bah, dans un des 6 mois, hein, parce que je suis vachement à la bourre sur mes comptes rendus. Et comme je suis en train de faire des podcasts au lieu de bosser sur mes comptes rendus, eh ben voilà, on n'est pas sorti du brouillard. Donc ce que je veux dire, c'est que là j'ai deux choix en fait en tant que game designer. Je me dis ok, j'ai des pratiques spécifiques. Je peux me dire bon bah je vais jouer la carte de l'honnêteté, puisque c'est comme ça. Je design le jeu. Juste un jeu qui correspond à mes pratiques et qui est fait en fait pour des tables qui ressemblent aux miennes. Et par exemple, ça se sent dans un jeu comme Demiurge de Frédéric Sintès, où le jeu il fonctionne mieux avec un MJ et 4 joueuses. Et on voit bien que les mécaniques elles sont faites pour ça, quoi. Hein. Si tu rajoutes et que tu enlèves du monde, ça commence à dévisser pas mal, quoi. À l'inverse, parce que 4 joueuses, bon, c'est un effectif un peu classique quand même, Chevalerie et Sodomie, un jeu du Divin Marquis, où on joue des hommes porcs face à des nobles décadents et pervertis. Des hommes porcs et tout ce que tu veux, hein, tu peux jouer n'importe quoi, hein. Du moment que c'est débile. Dans Chevalerie et Sodomie, eh bien, je crois que les règles elles sont faites pour jouer entre 8 à 12 personnes. En plus, on joue debout. Donc voilà, tu sens, à mon avis, l'auteur. Classiquement, il joue avec des groupes énormes en fait. Je pense que s'il a designé des règles pour 8 à 12, c'est que en fait, il a souvent des groupes comme ça, quoi. Donc je pense il doit avoir deux cerveaux comme les requins pour s'en sortir, quoi. Donc si vous avez deux cerveaux, le jeu est fait pour vous. Voilà, moi je vais prendre mon exemple. J'aurais pu, enfin Odyssea par exemple, que j'ai joué en table ouverte. Enfin, quelque part, je pense que ça se sent dans le jeu qu'il a été designé pour de la table ouverte. Il y a beaucoup de règles qui permettent de gérer ça. Bon. Pour autant, je pense que le jeu fonctionne dans une campagne avec les joueuses qui sont toujours les mêmes, quoi. Ça fonctionne aussi. Et en fait, la plupart des game designers, ce qu'on fait, c'est qu'on conçoit un jeu qui soit extrapolable à des pratiques différentes des nôtres, quoi. C'est pas parce que moi j'ai jamais que deux joueuses à ma table que je vais faire un jeu qui fonctionne pas pour 1 à 7 joueuses par exemple, quoi. Et ainsi de suite, hein. Bon, il y a plein de paramètres comme ça qu'on veut. Il y a des auteurs de jeux qui jouent toujours en impro. Mais qui vont écrire des scénarios parce qu'ils savent qu'il y a une partie de leur audience qui en réclame, quoi. Et le fait justement que l'auteur y design un jeu qui déborde en fait le cadre de ses propres pratiques, ça crée des jeux profonds. D'ailleurs, ça pose une question sur le playtest en fait. Le playtest crée de la profondeur. Bon, je pense que je l'ai un peu démontré, puisque à chaque partie en fait, on va modifier les règles. Et souvent, on modifie les règles, mais aussi souvent on en rajoute, quoi, en disant ah ouais, mais là ce serait bien qu'au niveau du contrat social ce soit plus carré. Là, les personnages ils ont pas assez d'options, ceci, cela. Là, ce serait quand même bien que tu rajoutes des règles pour mécaniser l'évolution du schéma narratif et ainsi de suite. Et donc, plus tu vas playtester, plus le jeu il va être profond, pas tout simplement parce que le volume de règles il va grossir, grossir, quoi. Donc bon, après. Tu peux playtester pour au contraire enlever un maximum de règles, mais Je sais que moi, plus je playteste et plus les jeux grossissent. Hein. Clairement, Influenza Minima, au début, qu'il était très peu playtesté, il tenait en une page. Et puis j'ai playtesté, playtesté, playtesté. Et puis au final, le jeu, il fait 40 pages. Hein. Et encore, si tu veux, j'ai encore des lectrices qui m'ont écrit pour. Enfin, des lectrices, des lecteurs. Un lecteur, en l'occurrence, qui m'a écrit pour dire, bah ouais, bah c'est gentil, mais je trouve que c'est pas assez détaillé dans les exemples, tout ça. Il y a des points de règle. Bah, je comprends pas comment on les utilise, quoi. Donc tu vois, il y aura peut-être encore moyen de faire grossir le jeu, quoi. Et là, entre guillemets, le dévissage de ça, c'est qu'on peut se demander à quel point. Enfin, en fait, les playtests créent des monstres. Ouais, il faut absolument que le monde le sache. C'est que des fois, ben, si tu playtestes trop. Eh bien, ouais, tu vas créer un monstre parce que tu vas rajouter plein, 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 plein de règles. Et puis, bah, il y a un moment, tu vas sortir une usine à gaz, quoi. Donc, quelque part, est-ce que ce serait pas ça le jeu trop profond, c'est l'usine à gaz, tout simplement, quoi. Surtout quand tu sais pas expliquer. Comment le caractère modulaire de ton jeu en fait, et que du coup les joueuses pensent que toutes les règles doivent être utilisées en même temps. D'ailleurs, c'est la grosse confusion qu'il y a eu au sujet de Rollmaster, quoi. Parce qu'en fait, Rollmaster c'est un énorme corpus de règles, principalement des tables aléatoires d'ailleurs, mais c'était pas fait pour qu'on utilise tout en même temps. C'était fait pour qu'on pioche à ses besoins, quoi. Et donc c'est une sorte de. Finalement, le fait que ça devienne une usine à gaz, eh ben, c'est du gameplay émergent. La profondeur, bon, vous allez encore dire, ouais, super, tu ne parles encore de game design, voilà, c'est les jeux, ils font tout, ils fonctionnent sans les joueuses. Bon, je parlais de gameplay émergent quand même. La profondeur, elle est en effet dépendante de l'implication des joueuses, quoi. C'est-à-dire que tu as des. Les personnes qui jouent au jeu à la lettre, by the book, des fois elles vont te dire je le fais parce que je suis feignant. Bon, c'est dans le sens où. Pas forcément que je suis là pour consommer le jeu, quoi, mais moi j'ai envie de jouer à juste ce que le jeu a à m'offrir. J'ai pas envie de faire d'efforts pour comment dire pour faire grandir le jeu quoi. Mais il y a des tables qui sont pas dans cette optique-là. Il y a des tables où en fait les joueuses elles vont s'impliquer et elles vont faire des trucs que juste le jeu il a jamais demandé quoi. Bah, par exemple cas typique comment une relation amoureuse qui pourrait être gérée par un simple jet de charme. Eh ben en fait, tiens, la MJ va se dire, ah bah ben non, plutôt je vais dire, ouais, mais là en fait, ce serait quand même cool que pendant l'interséance, tu écrives un poème en fait. Et si tu l'écris, eh ben tu auras le droit au jet de fer charme, peut-être avec un bonus. Bah, tiens, en plus, hop, hop, dès qu'on parle de termes bonus, malus, vous avez des gros panneaux, gameplay émergent, quoi. Ça, c'est le degré zéro du gameplay émergent. Du moment que les joueuses et les joueurs commencent à se dire, on va se mettre des bonus, des malus pour des trucs qui sont pas prévus dans le jeu, on est en train déjà de bricoler le jeu, de faire un nouveau jeu, quoi. Le summum, si on veut, c'est cette profondeur par implication des joueuses. C'est ce qu'on appelle ce que j'appelle le jeu pervasif. C'est-à-dire que. Enfin, le jeu. Non, pas le jeu pervasif. Le jeu persistant. Le jeu persistant, c'est que bah, on fait des interséances, on va faire du roleplay entre joueuses par Facebook entre deux séances, on va faire des scénars solo, on va écrire des nouvelles qui racontent la vie de notre personnage, même que c'était pas dans l'aventure, mais c'est pas grave, du coup, et ainsi de suite. On va faire des dessins. On va se créer des aides de jeu, ceci, cela. Bah tiens, j'ai fait des écoles d'escrime pour Donjons et Dragons, et ainsi de suite. Et on va discuter du jeu dès qu'on se voit entre joueuses, du jeu, de l'aventure, tout ça. Et voilà, le jeu persistant, du coup, c'est aussi une sorte de summum de la profondeur, quoi. Alors, je vous ai déjà pondu une grosse galette là, sur la profondeur. Et du coup, j'en ai fait le tour. On va parler d'intensité maintenant. Je pense qu'il est temps. Je regarde, ça fait combien de temps qu'on stream? Ah ouais, putain, ça fait déjà 1 heure. Ouais, excusez-moi, je suis grossier. Voilà, je m'excuse, pardon, famille. Alors, c'est quoi, ma chère dame, c'est quoi l'intensité en jeu de rôle? L'intensité, c'est une expérience à fort engagement émotionnel. C'est souvent. Alors, engagement en émotionnel, c'est quoi les émotions en JDR? Ben, j'ai envie de à nouveau découper pour. C'est lié à la découpe de la patate, jeu de rôle, en 4 atomes. Hein, donc, tu auras des émotions tactiques, on est content pour son personnage quand il gagne, ça fait chier quand il perd, ainsi de suite. Des émotions morales, bon bah dilemmes moraux, ceci, cela, des émotions esthétiques, ah bah, non mais franchement ce qu'on raconte c'est trop beau, j'ai l'impression qu'à ma table j'ai Spielberg, Tarantino, et puis Roland Emmerich, chercher le, comment, et Jean-Luc Godard, voilà, histoire de faire cohabiter la coterie de l'impossible. Et puis bon, bah aussi une intensité sociale, du genre. Ah là, justement, on parlait de jeu persistant, et aussi le jeu pervasif. Une intensité sociale, bah, en fait, c'est un jeu à fort engagement social, quoi. Alors, fort engagement social, ça peut se définir de plein de façons, je me rends compte. Ça peut être, finalement, ça peut être une forme de profondeur, quoi, dans le sens où ben, on va faire une campagne, on va jouer toutes les semaines pendant 3 ans, bah, il y a un fort engagement social. Enfin, quelque part, c'est une forme d'intensité, quoi. Ou ça peut être une intensité des relations pendant la partie. Parce que il faut que les joueuses produisent une grosse osmose pour que le jeu fonctionne, ainsi de suite, quoi. Alors, le jeu en intensité peut être, mais pas forcément, mais pas que, associé à une faible durée de vie, quoi. On parle de jeu, des fois on parle de jeu à one shot, quoi. Des jeux à jouer une fois. Bah, si je prends Labyrinthus dans la boîte de jeu, eh ben, y a juste un scénario. Tu joues le scénario et t'as fini le jeu. Bon, tu peux éventuellement bidouiller, enfin, avec le système, continuer un peu en autonomie, mais bon, tu vas pas aller bien loin, quoi. Grosso modo, l'expérience principale de Labyrinthus, c'est jouer le seul et unique scénario, quoi. On a les jeux à one shot, hein, typiquement sombres, mais bon, aussi pas mal de jeux qu'on a sur les ateliers imaginaires où tu fais pas des campagnes, quoi. Hein, ou alors on a les jeux à campagne courte, on appelle aussi les bursts, hein, comme Notre Tombeau, Dino. Comment? Le mauvais jeu en intensité. Alors encore une fois, moi je suis toujours très sceptique quand on entend bon et mauvais jeu. Ouais, c'est comme le bon et le mauvais chasseur, quoi. On va dire le jeu qui a assez la forme de jeu intense, qui peut être décrié notamment par les joueuses qui n'aiment pas le mode auteur, c'est les machines à saucisses. Alors oui, déjà le terme, c'est un terme à jugement embarqué. Hein. Une machine à saucisses, c'est un jeu intense, notamment souvent des jeux à one shot, où on va te mettre des gros gros panneaux indicateurs pour te montrer les directions dans lesquelles il faut créer, quoi. Donc on va tellement encadrer le jeu que ouais, c'est possible que l'expérience soit intense, mais en même temps c'est possible que comme t'es tellement encadré en tant que joueuse, ben tu te sentes finalement dépossédé de ton personnage, ou tu te dis bah ça sert à rien que je suis là, c'est un jeu sans émergence, ainsi de suite. Voilà. Sans émergence, c'est vachement dur de dire ça, parce que l'émergence, c'est quelque chose de tellement vaste. Un jeu comme Perfect, où t'as l'impression que Perfect mécanise complètement le déroulé de l'aventure. Ton personnage commet des crimes, Du coup, il est capturé par l'enquêteur. L'enquêteur le torture. Après, il relâche, il est obligé de recommettre des crimes. L'enquêteur le recapture, ainsi de suite. Il dit, ouais, effectivement, c'est intense, mais c'est quand même vachement drivé. Sauf que l'émergence, elle est présente dans le bad, dans ce que tu vas, comment tu vas, enfin, c'est quoi ton crime, tout ça, tous les dialogues qui sont pas écrits. Et tu t'épanouis d'autant plus dans Perfect si tu comprends en fait que c'est la véritable proposition forte du jeu, c'est jouer une personne qui n'a pas le choix que de commettre des crimes. Soit parce que la punition crée le crime, c'est-à-dire que c'est un état oppresseur qui de toute façon la punit pour ce qu'elle est. Voilà, c'est ça. En plus, c'est un jeu sur l'ontologie, quoi. C'est qu'en fait, un jeu sur l'essence. Puisqu'en fait, le criminel, il est dans ce jeu, il est criminel par essence, quoi. Quelque part, je pense que vous seriez beaucoup moins choqués si je vous faisais un jeu où on dit, bah, vous êtes des orques. Hein. Et du coup, dans ce jeu, ben, il y a des soldats qui vous pourchassent et qui vous capturent parce que vous êtes des orques et ils considèrent que vous êtes des aberrations. Bah, t'as pas choisi de naître orque, hein. C'est comme ça, quoi. Hein. Ça pourrait être, vous êtes des personnes transgenres, transidentitaires. Bah, vous n'avez pas choisi d'être transidentitaire, quoi. Vous n'avez pas choisi d'avoir des doutes sur votre identité. Et le fait d'avoir un look transgressif, eh ben, vous ne choisissez pas forcément non plus, parce que c'est vraiment une pulsion, quoi. Et du coup, les conséquences qui est que l'État oppresseur, il vous punit, ou la société vous punit, ben, vous n'avez pas choisi non plus, mais c'est inéluctable, parce que vous vivez dans une société oppressante, quoi. Et une fois que tu as intégré ça, en fait, tu peux à nouveau produire de l'émergence, je pense. Voilà, c'était mon voilà, big up à Avery McDonaldo. Tu vois, je défends ton jeu parce que je sais qu'il est souvent décrié pour une certaine raideur qu'on lui reproche hein, et que moi je trouve qui peut être très fertile en fait. Voilà. On parle, je pense que les jeux intenses, la plupart du temps, s'appuient sur des mécaniques dures, mais parcimonieuses. Bah, l'exemple, voilà, à nouveau, que je vais ressortir, c'est Breaking the Ice, où il y a des mécaniques dures pour gérer la relation amoureuse, mais les mécaniques sont parcimonieuses dans le sens où elles gèrent que ça. Le reste, c'est Sky is the Limit. Je peux jouer une histoire d'amour entre ninjas, je peux jouer une histoire d'amour entre grenouilles, je peux jouer une histoire de faire du contemporain, du fantastique, enfin voilà. Je peux jouer des homosexuels, ainsi de suite. Enfin, tu peux jouer tout un tas de choses de relations amoureuses. Donc il y a une émergence énorme en fait. C'est pour ça, hein, le fameux combat prescription contre émergence, il y a toujours ce dialogue dans tout type de jeu, mais selon les jeux profonds ou les jeux intenses, le dialogue est différent, quoi. Pour les jeux intenses, on parle aussi de cohérence interne, c'est-à-dire que les game designers qui veulent produire du jeu intense, en fait, ils travaillent sur des jeux à forte cohérence interne. Il y a aussi, je pense, une notion de répétibilité. C'est-à-dire qu'on veut proposer une expérience avec le jeu intense et on veut que d'une partie sur l'autre, d'un groupe sur l'autre, l'expérience, elle se répète. Et du coup, on va mécaniser pour ça, quoi. C'est-à-dire que le game designer, il a défini son sacré dans le jeu. C'est quoi mon sacré? C'est ce qui les invariants. Et c'est là-dessus, c'est ça, c'est mon sacré qui va être intense en fait. Et puis après, il y a les espaces de liberté quoi, autour quoi. Et ce qui est marrant en fait, c'est quand tu designs pour créer de la répétibilité. Encore une fois, à nouveau, un autre cas où Playtest crée des monstres, c'est que je pense qu'en designant pour créer ta répétibilité, tu transformes ton intention de départ au fur et à mesure, quoi. Ça me paraît quasiment inévitable. En tout cas, moi, c'est vraiment ce que j'ai constaté quand j'ai développé Influenza. C'est que j'avais voulu répéter l'expérience que j'avais eue avec ma campagne des épines de la rose, quoi, que je trouvais cool, et je me suis dit, bah, je vais faire des règles qui vont permettre de répéter. Et en fait, en créant ces règles, ça a fait qu'on faisait autre chose. Il y avait une partie de mon expérience de départ qui était encore là, mais finalement, le sacré d'Inforenza, c'est pas l'expérience de départ que j'ai eue sur la campagne des épines de la rose, c'est autre chose. Voilà, donc quelque part, game designer, c'est tricher, hein. N'espérez pas game designer sans modifier en fait votre intention de départ, quoi. Alors, intensité et gestion du rythme et du temps. Quelque part, souvent dans l'intensité, on vise des parties courtes, rapide et intense, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de temps de pause, quoi, hein. Notamment, c'est fait grâce à des systèmes légers où on s'emmerde pas à faire tout un tas de calculs qui ralentissent le jeu. Enfin, grosso modo, tout ce qui pourrait ralentir le jeu est dégagé, quoi, hein. Ou, enfin, entre guillemets, si une règle est présente, elle est là pour généralement pour accélérer le jeu plutôt que le ralentir, quoi. Notamment, on va aussi utiliser des mécaniques discrètes, mais qui vont contraindre l'émergence dans un sens voulu. Ça, c'est la notion de vide fertile, encore une fois. Donc, big up à Frédéric Saintès, hein, si tu nous écoutes. Tu vas retrouver encore ton article dans ma biblio. Voilà, écoute, si j'avais eu 1 dollar à chaque fois que j'avais fait un lien vers ton article, et si je t'avais donné 1 dollar, je serais riche. Mais si je t'avais aussi donné 1 dollar à chaque fois qu'un de tes articles m'avait inspiré, ben finalement je serais de nouveau pauvre. Alors Victor, j'ai l'impression que tu baves sur mes notes. C'est pas très cool de ta part. La faille du jeu intense, ça peut être par exemple, est-ce qu'on n'a pas trop de simplicité qui tue l'intensité, quoi, à force de faire des mécaniques dégraissées pour que le jeu soit speed? Et ben voilà, est-ce qu'on aboutit finalement pas à un jeu qui est pas tellement intense, quoi. Par exemple, je vous donne un exemple, mettons, je fais un jeu moral intense. Je dis bon bah créez vos personnages, vous leur donnez un objectif. Moi mon objectif c'est séduire la reine. Tu rencontres la reine et grosso modo, si tu veux tomber amoureux d'elle, faut que tu tues son mari. La joueuse, elle va répondre, pas de problème, je tue son mari, hop, dilemme résolu. Parce qu'en fait, là, on n'a tellement pas pris le temps de creuser les relations avec le mari, tout ça, les valeurs morales du personnage, et ainsi de suite, quoi. On a voulu tellement aller tout de suite au dilemme moral, qu'on a tué le dilemme moral, parce que là, il n'y a juste aucun dilemme. Donc soit, en fait, la joueuse, elle a aucune hésitation, parce qu'il y a tellement peu d'informations qu'elle a... Voilà, elle se contente de suivre son objectif sans voir les contraintes qu'il pourrait y avoir. Ou, à l'inverse, en fait, dire, ouais, tu me proposes un dilemme moral, mais j'ai tellement peu d'informations que je suis incapable de choisir. En fait, des fois, le jeu intense, il a besoin notamment de prendre son temps, quoi. En fait, il faudrait peut-être faire des bonnes scènes d'introspection avec la reine, avec le mari, tout ça, machin. On se rend compte qu'en fait, le mari, c'est un super chic type, mais en même temps, il bat la reine. Alors donc, peut-être que ce serait cool de le tuer. Ouais, mais si je le tue, peut-être que le pays va sombrer dans l'anarchie. Oui, mais peut-être que je ferai un meilleur roi que lui, ainsi de suite. Puis alors, du coup, après, on se retrouve à nouveau dans le sens inverse, c'est que si tu laisses la joueuse 15 séances pour explorer le dilemme moral avant de prendre sa décision, je suis désolé, l'intensité c'est mort, quoi, hein. Intensité et fatigue. Bon, j'ai parlé de surcharge cognitive, hein, tout à l'heure quand je parlais de jeu profond. Mais je pense dans le jeu intense, on l'a aussi, parce que d'ailleurs le jeu intense peut fonctionner à partir de surcharge cognitive. Par exemple, effectivement, on peut avoir le truc tout bête, c'est que si vous commencez à avoir mal à la tête pendant une partie, c'est sans doute que vous êtes dans un jeu un peu trop intense pour vous, quoi. Par exemple, si vous avez un jeu qui vous demande de créer beaucoup sans vous donner trop de matière pour le faire, quoi, eh ben, vous allez y arriver, mais peut-être que vous allez ressentir une grande fatigue, hein, parce que bon, créer, ça fatigue, hein, et puis bon, même si vous avez des trucs de base, hein, parce que bon, moi, je veux dire, si je te fais bouffer plein d'univers, plein de tables aléatoires, si tu te donnes plein de bases, tu vas quand même peut-être être fatigué à créer beaucoup, quoi. Si je te le demande en permanence, il faut tout le temps enrichir la fiction avec des nouveaux détails. C'est un peu balèze, quoi. Voilà, donc des fois, quand tu vois l'intensité, tu peux essayer de la désamorcer, quoi. Là, je suis en train de démarrer une campagne d'Hollywood, d'Emmanuel Garby, quoi. Puis je vois, voilà, le jeu, c'est un jeu moral, je sens que les personnages, ils vont baver, tous ceux qu'ils aiment vont s'en prendre plein la gueule, tout ça. Là, en ce moment, dans l'état où je suis, vu les goûts de mes joueuses et de mon joueur, on va faire autre chose. Je vais un petit peu alléger le jeu. Notamment, on va se dire, allez, on joue dans l'esthétique. Nous, de toute façon, ce qui nous amuse, c'est de faire du film de mafia. Donc, on va jouer pour le style, quoi. Histoire de pas se faire saigner le cœur à chaque partie, quoi. Ouais, sur les jeux. Ah oui, j'avais noté, hein, sur les jeux. Comment sur les jeux intenses à one shot, bah, les soirées enquête, hein, quelque part, c'est le format par défaut. Hein. En jeu de rôle, on a aussi Montségur, hein, que tu joues la prise de la dernière forteresse des Cathares. Voilà, c'est un jeu, tu y joues une fois, il y a une séance à faire, quoi. Donc l'intensité, parce que des fois on dit, ouais, il faut que ce soit léger, donc par exemple, on va vachement épurer le contexte. Mais l'intensité, ça peut être compatible avec un jeu documenté, par exemple Montségur, hein, bon, qui a sans doute une certaine précision historique, quoi. Je pense aussi à Lady Blackbird, hein, de Macbeth, quoi. Et finalement, le fait que le jeu soit documenté, précis ou réaliste, historique, va créer une intensité dans le sens où les situations, elles vont sembler tellement concrètes. Plausible, tu vas aussi connaître les tenants et les aboutissants. Donc, voilà, parce que si au départ tu sais pas que, par exemple, dans Montségur, si tu sais pas qui sont les Cathares, quelles étaient leurs façons de penser, leur philosophie, tout ça, ça va être difficile de jouer un Cathare qui se fait oppresser par les catholiques, en ressentant vraiment ce que peut ressentir le personnage, quoi, ce que ça peut représenter, que la fin du monde cathare, ainsi de suite. Donc si le jeu prend la peine de te, eh ben, te documenter là-dessus pour que tu t'identifies un peu au personnage, eh bien tu vas accéder à l'intensité après dans l'expérience, quoi. Donc comme je disais, la profondeur, c'est une variation d'intensité dans le temps. C'est comme une symphonie. Voilà, la symphonie du Nouveau Monde. Il y a des moments hyper calmes, genre, enfin, tu passes le MP3, t'entends rien du tout. Sauf si tu mets le son à fond, quoi. Genre, il y a un violon tout asthmatique qui se bat en duel, quoi. Et puis il y a des moments de climax ultra bourrin, avec tous les instruments qui jouent en même temps à fond. Et là, en fait, t'as intérêt à baisser le son, sinon ça va te démolir les oreilles, quoi. Et en fait, ça fonctionne. Voilà, une campagne en profondeur, c'est comme une symphonie, quoi. Il y a des variations d'intensité, une amplitude importante, quoi. Ah oui, je parlais de jeu répétitif. Ouais, donc le jeu moderne, en fait, on peut le dire que c'est une formalisation d'une pratique de jeu ancienne pour la rendre répétible. Voilà, je trouve d'ailleurs que je suis content de mes définitions. Ouais, voilà, je m'enduis de satisfaction comme un goré. Parce que c'est, je trouve ça moins clivant que traditionnel versus moderne. En fait, là, le jeu, voilà, c'est quelque chose que j'ai déjà vu sur les internets, hein, c'est pas de moi, hein, cette définition, mais je la trouve très cool parce que bienveillante, enfin en tout cas neutre, quoi. Souvent, la recherche dans le 2 intense, ça a été ça, de formaliser une pratique de jeu ancienne pour la rendre répétible. Et moi, je sais que quand je fais du jeu, donc finalement, c'est. Enfin, si tu designes comme ça, tu designes plus dans la célébration de l'ancienneté que dans le rejet, quoi. Hein. En te disant, bah, en fait, une fois j'ai fait une partie comme ça qui était géniale, le reste des autres parties sur les jeux anciens, j'aimais pas trop, et moi, je vais créer un jeu qui permet de refaire cette partie géniale. Bon, que tu n'arriveras jamais à refaire, parce que, à nouveau. C'est quasiment illusoire de reproduire une expérience de jeu ancienne. T'es même des fois à contrario, tu vas en fait reproduire, refaire l'expérience, mais en plus intense. Ça peut être cool, mais ça peut être autre chose. Et des fois, tu te dis, bah ouais, moi j'aimais bien quand il y avait des dilemmes moraux qui étaient amenés à la fin du scénario, tout ça. Et je vais faire un jeu qui mécanise ça. Eh ben, sauf qu'en fait, le fait que ce soit tout le temps, à chaque scénario, un dilemme moral, de façon très très bien amenée, ça va peut-être beaucoup plus intense que ce que c'était avant, où en fait c'était dilué avec plein d'autres trucs, quoi. Ouais. Alors, la question suivante, c'est la richesse. Est-ce qu'il y a des jeux qui sont à la fois intenses et profonds? Bien, moi je dirais oui, et j'appelle ça la richesse. Voilà, la richesse avec. Donc, ça peut être super, on me dit, ouais, enfin, c'est à la fois profond et intense, j'en ai vraiment pour mon argent, j'ai bien fait de baquer. ou vous en avez pour votre gratuité si vous avez pris des jeux à ma crèmerie. Mais le comment entre guillemets la fausse bonne richesse, voilà le jeu qui est vraiment en surcharge cognitive, qui est tout simplement indigeste, hein, lâchons le mot quoi. Hein, et à un moment, c'est bien de profiter de chaque petit aspect que le jeu a à nous offrir, de le respirer un peu quoi. Et donc, quand tu es tout le temps en train de changer le gameplay, de rapporter de l'univers, des nouveaux personnages, avec des situations ultra intenses, ultra impliquantes, tout ça, bah, tu fatigues tout le monde, hein, à force. Hein, il faut bien être. Faut dire ce qui est, quoi. Donc, En fait, quelque part, quand on design à la fois sur la profondeur et et l'intensité, l'idée c'est de s'arrêter peut-être avant d'arriver à la richesse et de s'arrêter quand tu atteins l'élégance. Voilà, l'élégance, comment la définir sinon de dire bah, il y a juste le bon dosage de profondeur et d'intensité pour que ça soit supportable. Ah oui, je reviens à un truc là, sur le jeu moderne. Oui, désolé, je suis fatigué. J'ai dormi 15 heures sur les 3 jours précédents. C'est un peu nawak, puisque j'étais en tournée. Du coup, je saute un peu du coq à l'âne. Les jeux modernes, en tant que formalisation d'expérience que le game designer a connue sur des jeux anciens. Le jeu profond, voire le jeu riche, en fait, il vise non pas à répéter une expérience, mais plusieurs expériences. Moi je sais que je fais beaucoup avec Marche Branche, qui est un jeu qui joue sur la nostalgie. Nostalgie justement de parties passées. Et en plus, il joue sur des expériences aussi que j'ai pas eues. Puisque notamment je m'inspire du mouvement OSR et de descriptions de parties qui étaient faites par par des donjonneux de la première heure ou des donjonneux hipsters de la nouvelle vague. Mais en fait, moi j'ai commencé le jeu de rôle avec HeroQuest, pas avec Donjon Dragon Boîte Rouge, quoi. Bon, tu vas me dire, c'était peut-être encore plus old school que Donjon Dragon d'une certaine façon. puisqu'il n'y avait même pas de roleplay, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait que des portes, des monstres, des trésors. Et ça nous suffisait à l'époque. Bon, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, dans Marchevranche, bah, il y a des moments où j'ai envie d'émuler, effectivement, des porte-monstres trésors minimalistes. Il y a des moments où j'ai envie d'émuler bah, parce que je les ai vécus ou j'ai vu en fait des comptes rendus des joueurs, des joueuses le vivaient. Il y a des moments où je veux émuler des séances vraiment poétiques, comme je sais que ça a été joué par certaines personnes à Rêve de Dragon. Il y a des moments où je veux émuler des scènes de dilemme moral, comme il y en a dans, comme j'ai pu en jouer à d'autres jeux et ainsi de suite. Et puis il y a des moments où il y a des trucs que je veux émuler, ouais, qui sont du pur fantasme, où je me fais en fait quelque part, je me fais ma propre partie imaginaire dans ma tête et j'imagine des dynamiques sociales de joueurs de joueuses, notamment bah, de comment, de joueuses de groupes. De groupes réguliers en campagne, un groupe qui se connaît bien, tout ça, et que c'est quelque chose que finalement j'ai assez peu connu, et je peux juste me contenter de l'imaginer, de le fantasmer, et de faire un jeu qui s'adresse à ce type de public. Tout en m'offrant, moi, quand je fais un one shot de Marchevranche, m'offrant en fait un petit peu la saveur que ces personnes pouvaient rencontrer bah, dans des campagnes. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais faire un petit, justement, je me suis fait un petit tableau à deux ans, comment? À deux entrées, une entrée richesse hein, qui augmente et une entrée profondeur qui augmente. Et on va en fait, on va voir sur cette carte de la richesse et de la profondeur où les jeux et les pratiques se placent. Donc déjà, première question, est-ce qu'il y a des jeux qui n'ont ni richesse ni profondeur? Alors, on peut se dire, ok, s'il n'y a ni richesse ni profondeur, bah t'as fait un mauvais jeu. Et à ceci, je réponds, pas d'accord. Parce qu'en fait, on peut avoir besoin de jouer à un jeu apéro, quoi. On n'est pas toujours obligé de faire des parties ultra longues, ultra fouillées. On n'est pas obligé de se faire saigner le cœur et de se faire de saigner du nez et de la tête à chaque partie. Bah, je suis désolé. Bon, bah, je prends l'exemple, par exemple, de mon jeu Marin de Bretagne. Le jeu est designé pour faire des parties de un quart d'heure avec des casual gamers. On fait un petit conte, on joue un petit conte breton, quoi, qu'on imagine ensemble avec nos personnages. C'est ultra basique, mais vraiment, hein, le jeu, c'est ce que j'appelle un jeu. Bah, c'est un jeu sans prétention. Mais dans le bon sens du terme, donc genre, bah, ouais, on veut aussi des jeux, bah, pourquoi on n'aurait pas droit à des jeux casual, à des jeux apéro, à des jeux sans engagement, c'est une proposition que moi qui a toutes mes faveurs en tout cas. Autre jeu, ni intense ni profond, je pense à Ghost Echo. Puisque bon, on a un univers qui est ultra minimaliste, qui est résumé en 10 mots. On a un système de résolution, c'est pareil, hein, qui tient sur un morceau de PQ. On a une situation de départ, vite fait. Et puis bon, bah voilà, je sais pas, vous écouterez le podcast de la cellule sur Ghost Echo, mes propres comptes rendus de Ghost Echo. Bon, tu fais une partie sympa, tu joues pendant une demi-heure, quoi, puis bah, tu passes à autre chose, quoi. À moins de apporter du coup on parle de ton gameplay émergent, tes techniques de joueuse, de MJ, tes connaissances d'autres jeux pour en faire un jeu profond ou un jeu intense quoi. Mais voilà, si tu bricoles pas le jeu, bah c'est une expérience très très basique hein. Et qui peut être intéressant justement pour ça, dire ah bah t'es dans un coin de convention là, on a 20 minutes à tuer, allez on fait un petit Ghost Echo délire. Bon, après ça, c'est le cas de tous les nanogames. Hein. La personne qui arrive à faire un jeu intense et profond en une page, bah, ouais, franchement, je l'embrasse sur la fesse. Hein, félicitations, quoi. Il y a un moment, le signe, enfin, la taille compte aussi. Hein. Des jeux qui sont peu intenses et qui sont profond mais pas trop. Enfin, moitié profond. Oui, alors la moitié profond, bah, c'est l'hybride humain profond hein, qu'on a dans l'appel de Cthulhu, quoi. Donc, si vous commencez à avoir des petites écailles sur votre front, eh bien, c'est peut-être que vous êtes à moitié profond et pas très intense. L'exemple que j'ai en tête, c'est Donjons et Dragons Boîte Rouge. Voilà, bon, c'est difficile d'espérer une intensité de jeu avec des mécaniques aussi légères, puisque c'est juste le combat qui est géré. Mais déjà, dès Donjons et Dragons Boîte Rouge, on commence à avoir de la profondeur, parce que le simple fait de dire, bah, on joue dans de la fantasy. Voilà, vous avez un petit univers de poche avec notre bestiaire, mais surtout, on joue dans de la fantasy. Bah, les joueuses, elles se sont tout de suite compris le truc. Ah oui, ok, ça veut dire qu'on peut faire du Tolkien, ça veut dire qu'on peut faire de la Sword and Sorcery, ça veut dire qu'on peut faire du conte. Et puis, bah, dès le départ, le cochon était dans le maïs, c'est-à-dire que le jeu allait, à l'univers de Donjons et Dragons allait, était déjà en train d'exploser, enfin, dès la première année de vie, quoi. Hein. Ah bah tiens, ça veut dire qu'on peut rajouter des hobbits, ainsi de suite, on peut rajouter tel monstre de tel jeu, de tel univers. Donc, même si je pense que si on prend Donjons et Dragons Boîte Rouge au pied de la lettre, il n'est pas très profond. Mais en fait, voilà, la porte s'était ouverte quand même à la profondeur dès le début. Des jeux qui sont mi-intenses, mi-figue, mi-molette, et peu profonds, je pense à Sombre Zéro de Johann Scipion. Donc il y a une variante de Sombre qui est faite pour faire des parties de, je dirais, un quart d'heure à une demi-heure. Je pense surtout à un scénario de Sombre Zéro qui s'appelle Overlord, qui est écrit pour durer un quart d'heure, quoi. Alors. Franchement, n'espérez pas à la profondeur dans Overlord, c'est juste impossible. En plus, bon, je pense pas que je spoile beaucoup le scénario en disant que c'est juste un combat, quoi. Pourtant, on peut peut-être avoir de l'air. Bon, même sur Overlord, on peut atteindre une certaine intensité, ne serait-ce que le fait de dire bah, on joue avec un chrono de 15 minutes. Le simple fait de chronométrer provoque une intensité. Et puis, en fait, on peut faire des scénarios de Sombre Zéro qui soient intenses. Déjà, tout simplement, en allongeant un peu la durée, quand une demi-heure à 2 heures, on peut avoir des chouettes challenges. Alors, j'ai mis Prosopopée aussi. Bon, je pense que Prosopopée n'a pas vocation pour être un jeu profond, quoi. L'univers de base est vraiment très très peu esquissé, grosso modo c'est juste qu'on fait du Mushishi ou du Miyazaki, quoi, une espèce de Japon médiéval, poétique, mais qui n'est pas décrit, donc qui est entièrement soumis à l'émergence des joueuses, quoi. Et je pense pas qu'il soit fait pour être très intense, dans le sens où, notamment dans Prosopopée, comment? On insiste bien sur le fait qu'il faut, eh bien, il faut laisser des silences, quoi. Il faut prendre son temps pour narrer. Il faut pas faire des grosses narrations. Il faut pas apporter des barres dans Happy Together, quand on fait la scène d'introduction. Il faut juste dire une phrase et puis passer à son voisin et tout. Donc cette notion de lenteur est faite pour, parce que si on jouait trop intense. Eh bien, on serait pas dans l'esprit de prosopopée, quoi. Donc l'intensité, elle est pour le coup, c'est marrant parce que on va dire ah oui, les jeux peu intenses, ça vient du fait que le jeu est squelettique. Mais justement, dans prosopopée, on rajoute de la règle pour brider l'intensité. Alors, est-ce qu'on a des jeux qui sont vraiment que intenses et pas profonds? Le premier qui me vient à l'esprit, c'est le fast-food du jeu moral. C'est un jeu de Valentin T. C'est à la fois un hack d'Inforenza Minima et aussi des Terres de Sang, hein, de Simon Lee. Et donc, grosso modo, un fast-food du jeu moral, tu présentes ton. C'est fait pour jouer en 20 minutes, ça se joue à deux. Il y a une joueuse qui présente son personnage, l'autre joueuse qui lui pose plein de questions sur la vie, les émotions, le ressenti de son personnage, sa situation actuelle. Et une fois qu'elle pense avoir posé assez de questions, qu'elle a bien cerné en fait les tensions internes au personnage, sa personnalité, son vécu, sa situation, eh bien, elle lui propose un dilemme moral, une situation compliquée, et pour la résoudre, elle lui annonce deux solutions qui sont également mauvaises, en fait. Enfin, il y a deux solutions imparfaites, quoi. de solutions embarrassantes. Et la joueuse est priée en fait d'accepter le fait là, hein, de ne pas essayer de négocier, de trouver une troisième solution, de jouer en acceptation du fait qu'il n'y a que deux solutions dans la fiction. Et puis donc elle fait son choix. Et je pense que c'est ça, à mon avis, ça fonctionne très bien, effectivement, pour être hyper. Il y a un seul et unique dilemme moral dans la partie, mais je trouve qu'on travaille bien à l'amener, et j'ai encore pas testé, j'avoue, ça me tente. Mais effectivement, on doit être bien impliqué dans le seul et unique dilemme moral qu'on joue, quoi. Alors je pense au jeu Time Stories, hein. Time Stories, c'est un jeu de plateau de rôle, on va dire, quoi. Et dans Time Stories, ben, la boîte elle coûte 60 euros, je crois, 40-60 euros. Il y a un... C'est chroniqué par Guylaine de Migneau dans, comment, dans Radio Rôliste. C'est un jeu intense dans le genre où il y a plein de matos, ouais, des règles pas mal, tout ça. Et puis c'est une expérience de jeu qui apparemment est vraiment prenante. Mais il y a aucune profondeur dans le sens où en fait bah, t'achètes la boîte 60 euros et tu joues un scénario avec la boîte, quoi. Alors en réalité Time Stories peut devenir un a tout pour devenir un jeu profond dans le sens où il y a le livre le jeu c'est de base c'est des règles plus un scénario et en fait tu peux racheter des nouveaux scénarios. Je crois qu'ils sont à 15-20 euros. Et donc bah voilà, une fois que t'as dit scénario, bon bah t'es sur un jeu profond, quoi, hein. Tout simplement. Surtout que visiblement, il est prévu que chaque scénario exploite le gameplay d'une nouvelle façon, quoi. Alors, j'ai complètement perdu mes notes, c'est la fête. Bon, je trace parce que mon épouse va bientôt rentrer, du coup je vais être obligé d'éteindre. Alors, des jeux pas intenses, mais profonds. L'exemple que j'ai, c'est mon propre jeu Marche-Branche, où en fait j'ai voulu faire un jeu en profondeur, c'est-à-dire qu'il y a une évolution lente, comment il y a plein de. Comment on va changer pas mal de situations tout le temps, il y a tout un univers qui va se déployer. Mais en revanche, j'ai voulu brider l'intensité. Oh, tu veux un biberon? Oh, oui, ça va mieux là. J'ai voulu brider l'intensité, bah déjà pour des raisons d'accessibilité pour les joueuses, quoi. C'est pas un jeu qui va te donner mal à la tête, qui va te faire souffrir parce qu'il y a des dilemmes moraux atroces, ou qui va te faire, c'est comment où les défis tactiques vont pas être insurmontables, tout ça. On joue en légèreté, quoi. On joue calme. On joue pour se faire, en fait, on joue pour se faire plaisir, hein, tout bêtement, quoi. Dans les mêmes catégories, je vais placer Oltré, quoi. Parce qu'on a. Alors, ouais, pourquoi je dis qu'il n'est pas profond? Ouais, c'est peut-être un peu vache de dire ça. Si, parce qu'en fait. On part sur une définition de l'intensité qui est de dire l'intensité, c'est quand on est concentré sur un atome de jeu. Donc, par exemple, je fais un jeu moral intense. Voilà, il est les priori enfin, le, la partie morale du jeu est vraiment prioritaire sur le reste. Les autres parties du jeu, tactique, esthétique, sociale, sont au service du jeu moral, ainsi de suite. Et donc, si au contraire, tu as fait un jeu où les atomes ils sont à l'équilibre, pour justement passer d'un gameplay tactique à un gameplay moral, à un gameplay esthétique, à un gameplay social de temps en temps, et ben en fait, tu te retrouves avec un jeu à faible intensité. Et ce qui est complètement assumé, hein. Après. Finalement, tu peux altérer un jeu comme ça, un peu boîte à outils comme altérer. Tu peux en refaire un jeu intense à partir du moment où tu te dis, ouais, ok, c'est vrai que le jeu il permet de faire les 4 atomes, mais à la rigueur, je vais me concentrer sur les aspects du jeu qui sont dirigés vers un atome, et puis du coup, je vais en faire un jeu intense. Voilà, c'est une possibilité qui t'est offerte. Apocalypse Horde est fait pour émuler du jeu moral vanilla, c'est-à-dire que Ouais, c'est pareil, on se fait des dilemmes moraux, mais c'est pas fait pour te faire saigner le cœur. Au début, les personnages d'un Pokélusor n'ont aucun objectif. Donc du coup, les objectifs, le passif des personnages, ça va se monter au fur et à mesure, tranquille, on va monter les relations tranquilles, tout ça. Et puis les gros dilemmes moraux, ils vont émerger au bout d'un moment. Vincent Baker dit que le jeu commence à prendre son sel au bout de 6 séances. Donc je pense que ce qu'il veut dire, c'est que les gros dilemmes moraux vont seulement arriver au bout de 6 séances. Donc du coup, bon voilà, c'est pas vraiment l'intensité quoi. Si tu dois attendre la grosse vague, si tu dois attendre 6 séances avant que la grosse vague d'intensité de morale t'importe, on est sur un jeu juste profond quoi. Bon, Rêve de Dragon aussi, un jeu en profondeur, donc, tout simplement parce qu'il a un univers ultra vaste, ultra dépaysant et tout. Mais après, il est pas là pour, enfin, il n'y a pas d'intensité morale par exemple. Alors, des jeux un peu mi-figue, mi-raisin, hein, c'est-à-dire des jeux profonds, là, c'est aucun doute qu'ils sont profonds. Après, pour l'intensité, on ne sait pas trop. Je pense à. En fait, c'est deux jeux qui, tout simplement, ont un univers ultra vaste. Hein. Donc, du coup, ça, c'est de toute façon une garantie de profondeur. La Légende des Cinq Anneaux et Eclipse Phase. Et en fait, intensité, bah, ils sont un peu le cul entre deux chaises. Parce que effectivement, je pense que dans L5R, il y a moyen d'avoir des puissants moments d'intensité morale, notamment, mais c'est pas obligé. Donc c'est toi qui vois quoi. Dans Eclipse Phase, je pense qu'il y a moyen d'avoir des trucs esthétiques de ouf, quoi. Mais là, c'est pareil. Comment je vois quand même des. Souvent, ce qui se passe, c'est que bah, les tables, en fait, elles introduisent chaque nouveauté esthétique séance par séance. Bah, attends, là, je vais faire un scénario sur la réalité virtuelle. Prochain scénario, je vais tenter sur les morphes. Scénario 3, je vais voir comment. Je vais voir pour. Je vais voir pour faire des mémoires téléchargées, quoi. Alors qu'en réalité, tu pourrais dire non, bah allez, on fourre tout dès le départ, quoi, et on va faire un truc complètement mindfuck, et là, ça va être intense. Mais bon, du coup, derrière, les joueuses, faut qu'elles s'accrochent, quoi. Et alors, des jeux qui réussissent le pari pour le meilleur et pour le pire d'être à la fois intense et profond. J'en ai listé quelques-uns aussi. Il y a le jeu pervasif, hein, c'est-à-dire que. Sens exalogique, il y a un jeu à la fois persistant, gage de profondeur, et pervasif, c'est-à-dire que le jeu envahit la vie émotionnelle des joueuses quand même pas mal, avec quand même un jeu, je pense, qui prête le flanc à la manipulation des joueuses par le MJ, donc des choses au niveau moral très fortes, quoi. Alors c'est pareil, hein, pour le meilleur et pour le pire, enfin, je pense qu'on peut jouer à sens exalogique sans manipuler les joueuses, hein, c'est juste, mais. On voit que c'est une possibilité qui est offerte. Donc je pense, gagne la palme des jeux riches, quoi, c'est-à-dire les jeux profonds et intenses, hein, enfin il en fait partie, quoi. Donjons et Dragons 3.5, hein, tout simplement, parce que bah, on a une richesse d'univers, hein, dès qu'on utilise les univers officiels qui est quand même abyssal. Et puis on a une richesse de règles, mais qui va du coup procurer une intensité tactique. Qui est quand même assez inégalable. Hein. Un combat Donjon Dragon 3.5, je pense que ça peut être très intense, quoi. Alors, à ma modeste mesure, mes essais, donc évidemment, il ne m'appartient pas à moi de dire si c'est réussi ou pas. Les deux jeux que j'ai essayé d'en faire des jeux riches, le premier, c'est Inflorenza. Je considère que le jeu est intense dans le fait qu'il y a une dynamique, les règles, les mécaniques dures d'Inflorenza vont émuler une dynamique de confrontation et de drame qui peut être vachement intense, quoi. Et en même temps, le fait qu'on puisse y pluguer tout l'univers de Mivo dans toute sa richesse, le fait qu'on puisse rajouter des théâtres et qu'on puisse se faire des gros défis de gameplay. À mon sens, on fait un jeu intense. J'en veux pour preuve, à dire un peu statistique, que moi j'ai fait. Bon, sans parler du fait qu'en plus Inflorenza est aussi un jeu modulaire. Enfin, là je pense à Inflorenza 2, qui va être une sorte de fate où je vais en fait proposer tous les. En fait, les mécaniques dures de Inflorenza. deviennent modulaires dans Inforenza 2, c'est-à-dire qu'il y a plein de façons de les transformer, ces mécaniques dures. Et voilà, bon, la preuve, entre guillemets, si je devais fournir une preuve statistique de richesse, c'est bah, tout bêtement que du coup, Inforenza, si on rajoute toutes les variantes que j'ai produites et qui, bon, je considère font partie de Inforenza, hein, moi, j'ai fait 100 parties. Bon, après, et voilà, c'était pas un peu en somme, c'est-à-dire que je me suis amusé du début à la fin, quoi, et j'ai encore envie de jouer à Inforenza, quoi. Voire même encore envie de bidouiller, hein. Le playtest crée des monstres. Et il y a quand même une cinquantaine de compte-rendus de parties par d'autres personnes que moi. J'ai des tables apparemment qui jouent à Inforenza en rotation lourde aussi. Donc, bon, souvent c'est quand même un bon gage de richesse. Notamment, oui, parce que sur les compte-rendus de parties, on a ouais, des remarques en fait qui attestent de l'intensité du jeu. Arbre, bon là par contre c'est plus difficile pour moi de vous dire si j'ai réussi ou pas parce que beaucoup moins de playtest. Arbre, j'ai dû playtester 20 fois, mais grosso modo j'ai voulu le jeu intense tout simplement parce que c'est un hack de Inforenza Minima, donc un jeu avec des dilemmes moraux intenses. Et j'ai voulu le jeu profond en rajoutant une création de personnages pour avoir des personnages beaucoup plus détaillés, beaucoup plus étoffés dès le départ. Il y a des règles pour créer un bac à sable de départ, pareil, beaucoup plus étoffé. Alors que dans Inforenza Minima, le bac à sable de départ, c'est quasiment c'est un ticket de métro. Et puis après, on émerge à partir des objectifs et des actions des joueuses, quoi. Hop. Alors j'ai noté INS, je sais pas pourquoi je l'ai noté, mais je pense que ce qui est intéressant avec INS, c'est que c'est un jeu d'édition en édition. Ils ont au moins décidé de. Ils ont décidé de brider sa profondeur. C'est-à-dire que la dernière édition d'INS, ils ont fait un reboot en disant bah en fait la hiérarchie, les démons se retrouvent qui étaient sur Terre, ne peuvent plus retourner en enfer, la hiérarchie ne répond plus, et puis ouais, vous savez, la troisième force, les sorciers, les huit camps, les celtes, enfin toutes les autres factions qui sont pas les anges et les démons, bah en fait on oublie. Voilà, ils ont disparu, donc ils sont plus là. Donc d'un coup, en fait, on épure vachement l'univers. Bon, je pense qu'il y avait une raison un petit peu éditoriale qui était que, ouais, ok, on ressort INS, mais on va pas ressortir tous les suppléments, quoi, c'est bon. Et donc, du coup, on modifie les règles et l'univers de jeu pour justifier le fait qu'on va pas sortir, ouais, 1000 suppléments, quoi. C'est juste, on voulait ressortir un livre de base pour les nostalgiques. Mais bon, et là, je trouve que c'est vachement intéressant cette métamorphose, en fait, ce changement au niveau des réglages de profondeur du jeu. Autre facteur de profondeur, hein, je crois que j'en ai déjà parlé, c'est plusieurs jeux dans le même univers. Vous voyez, par exemple, Milvaux, il y a 15 jeux dans le même univers. Comment sur les ateliers imaginaires, il y a Epiphany, hein, qui a joué une campagne des Chroniques oubliées dans l'univers de Radjaban. Univers désertique, médiéval désertique pour faire simple, et il joue sous les Chroniques oubliées, mais il a fait un scénario sous Inforenza, où du coup, pendant une séance, il avait un gameplay différent, on a mis en place des choses vachement différentes, mais en fait, on aurait pu imaginer, pourquoi pas, faire un scénario, mettons un personnage meurt, et ben on fait son enterrement en jouant avec le jeu Phaser, quoi. Mettons deux personnages tombent amoureux dans Rajaban, bah on va jouer leur relation amoureuse avec Breaking the Ice et ainsi de suite, quoi. Et du coup, ça, c'est facteur de profondeur, parce que tu vas tester plein d'expériences différentes, et facteur d'intensité, parce que tu vas utiliser des jeux intenses, bon, Inforenza, Breaking the Ice, Favor, pour émuler chaque petit moment. Ouais, c'est pas mal. Donc, je rappelle pour conclure que l'intensité, que soit l'intensité ou la profondeur, ça va dépendre de ce que le jeu apporte et ça va aussi dépendre de ce que les joueuses apportent, quoi. Notamment, il y a la notion de roleplayer en intensité, quoi, avoir un roleplay intense. Également, il y a pour la facteur de profondeur, on a le style de la joueuse. Bon, son style peut apporter une intensité, quoi. Et puis la notion de répertoire, tout le répertoire des choses qu'elle sait roleplayer, qu'elle peut mobiliser à tout moment, qui va être un facteur de profondeur. Je pense que j'ai beaucoup parlé, encore une fois, de game design, mais bon, je me permets de marteler quand même tout l'intérêt des joueuses. Eh bien, dans le processus d'intensité ou de profondeur. Alors, bon, les game designers qui m'écoutaient, ce que vous pouvez faire, c'est du coup les observer, ces joueuses, et essayer de voir ce qui se passe dans leur tête. Bon, disséquez-les en quelques-unes, quoi. Faites quelques lobotomies, enfin, découpez leur cerveau et tout. Et puis, voyez ce qui se passe dans leur tête, et voyez à comment vous pouvez encourager ça dans vos jeux. Et du coup, comme vous allez encourager ça dans vos jeux, vous allez créer des monstres de règles, et vous allez créer des jeux trop riches, et voilà, c'est le problème. C'est que aussi, des fois, il y a un moment. Il faut lâcher prise quand tu crées ton jeu, tu te dis ouais, attends, moi je vais me concentrer sur mon sacré. Peut-être que ce sera pas aussi intense ni aussi profond que ce que je veux, mais en même temps, si je mets tous les curseurs à bloc, eh bien il reste plus de place pour la joueuse pour produire son gameplay émergent à elle, du coup pour s'approprier le jeu, pour prendre du plaisir. Il y a un moment, les règles c'est un escabeau pour la joueuse, c'est-à-dire que. Elle va pouvoir se hisser sur les règles et produire une qualité de jeu qu'elle n'aurait pas produit avant parce que, tout simplement, les règles, par exemple, fait qu'elle a plus besoin de se concentrer sur certains aspects. Et donc, elle peut se concentrer sur d'autres trucs. Ah, par exemple, cas typique, univers prescrit. Si l'univers est prescrit, la joueuse, elle n'a pas besoin de se concentrer sur la création d'univers. Donc, elle peut faire autre chose, quoi. Mais en même temps, il y a un moment, quand l'escabeau il est trop grand, ça donne le vertige. Ou ça donne, pourquoi pas, l'impression que soit que le jeu peut très bien se passer de toi. Alors bon, voilà, c'est quand même un petit peu le non-sens du game design. Ou que le jeu est trop grand pour toi. Hein, enfin, je veux dire, le nombre de fois où j'ai entendu sur des jeux intenses ou des jeux profonds. Ah bah ouais, mais là je me sens pas d'y jouer, enfin le jeu est trop riche, il est trop profond, il est trop intense, je serai jamais à la hauteur. Bon, déjà, à la limite, joueur, joueuse, déculpabilisez-vous, enfin, qu'est-ce que vous en risquez, quoi? Ouais, ok, Eclipse Phase, c'est impressionnant, il y a un univers de ouf, prenez-le par le bout que vous pouvez, et puis lancez-vous, de toute façon, personne va mourir parce que vous avez raté Eclipse Phase, quoi, parce que vous n'avez pas exploité les 1000 capacités de gameplay qu'il y avait, quoi. Un jeu intense, par exemple, ouais, c'est vrai, tu te dis, par exemple, Shades, c'est un jeu intense, on va ressentir plein d'émotions, tout ça, ou un jeu comme De Mauvais Rêves, où on joue des relations familiales dysfonctionnelles, tu vas dire, ah, je peux pas jouer à De Mauvais Rêves, parce que ça va trop me faire saigner le cœur, quoi. Alors, il y a deux solutions à ça. Soit tu sélectionnes bien tes joueuses, et enfin, entre guillemets, on se concerte bien pour réussir à bien épouser le jeu, pour être en confort, et puis du coup ça va bien se passer. Ou alors à la rigueur, l'effet inverse, c'est que ouais, si je joue à Shades avec des joueuses qui sont vachement dans le lâcher prise au niveau des émotions, tout ça, qui vont raconter des trucs hyper poignants. Qui vont en plus jouer de le vertige logique du fait que on a des souvenirs mais ils sont pas fiables, en diverses versions de vision du monde qui sont contradictoires, tout ça. Ouais, ça va être vachement intense. En fait, ça va peut-être être vachement intense, c'est peut-être trop intense justement, et c'est pour ça que tu oses pas le faire. Et ben à la rigueur, joue à Shades en convention avec, je vais pas dire avec des noobs. Mais avec des personnes que tu sens bien qu'elles n'ont pas ça dans leur style, quoi. Que c'est pas leur style de faire du jeu super intense, qu'ils vont pas te faire des narrations qui vont déchirer le cœur, vont pas te faire des vertiges logiques de ouf, parce que d'habitude, c'est pas du tout leur style de jeu, elles font du pouce-pion à HeroQuest. Et du coup, ce qui va se passer, c'est qu'elles vont te diluer le jeu. Déjà, parce que quand tu vas leur transmettre le jeu, tu vas pas pouvoir leur expliquer toutes les règles. Donc ça va dégonfler le jeu dans son intensité. Et puis elles, de toute façon, elles vont pas raconter des trucs aussi tragiques que le jeu le permettrait, aussi vertigineuses, tout ça. Et du coup, l'expérience, eh ben, elle te sera plus confortable, quoi. Tu vas pas ressortir de là avec un mal de tête, les larmes aux yeux, tout ça. Ouais. Voilà, bah écoutez, c'est fini pour ce podcast. Hein. Je sais que c'est ultra verbeux. Attendez, ça a duré combien de temps? Je crois qu'on va se faire peur. J'irai 2 heures, là, 2 heures, 2 heures et demie. Ah, même pas, 1h50. Bah alors, eh ben, on a le temps de se faire un kebab. Kebab vegan, hein, bien sûr. Bon, voilà, amusez-vous bien, soyez intense, soyez profond, hein, soyez intense, soyez profonde aussi, hein, vénérez Cthulhu, et puis à la prochaine. Salut, salut!